Le président Issoufou est venu à Paris sur l'invitation du président français et il a saisi cette occasion pour faire le point de la coopération entre notre pays et la France, une coopération, cas de l'avis des deux chefs d'État, une coopération excellente, riche et très forte. Un partenariat historique, en tout cas, qui ne dément pas ses promesses. Et vous l'aurez constaté, le ministre des Finances a signé un certain nombre de conventions de financement. Et des financements qui vont de l'énergie renouvelable à la sécurité alimentaire, à la scolarisation de la jeune fille. C'est pour dire que cette visite a été un énorme succès. Le président de la République a profité aussi de cette visite pour rendre une visite de courtoisie au président du Sénat français, qui lui aussi a saisi l'occasion pour dire tout le bien qu'il pense de la coopération entre la France et le Niger, et tout son attachement à la lutte que mène le Niger pour lever les défis de développement et les défis de sécurité qui assaillent notre pays.
Est-ce qu'il a été question du début de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel?
L'opérationnalisation de la force du G5 Sahel est déjà en cours. Comme nous le disions très souvent, il n'y a désormais que des formalités purement techniques sur les deux fuseaux restants.
Oui, mais ça, monsieur le ministre, vous
En
l'avez
vue
dit à maintes
de leur
reprises, hein?
certification, en vue de leur certification, sinon, les opérations ont déjà commencé au niveau du fusée centre.
Oui, mais ça, vous l'avez dit à maintes reprises, monsieur le ministre.
Mais parce que c'est ça, il faut le dire chaque fois, il faut le rappeler chaque fois à l'opinion, parce que c'est des opérations militaires, c'est des questions militaires que les gens ne peuvent voir. Ils peuvent que constater les succès, par exemple, parce que c'est sur le théâtre des opérations, c'est sur le théâtre des guerres que cela se fait. On ne peut que le dire.
Oui, mais le début de
Donc,
l'opérationnalisation était prévu
je
en
pense que
mars.
aujourd'hui, au fuseau centre, il y a au moins quatre opérations qui ont été menées. Au moins quatre opérations. Il y a même une qui est en cours actuellement, au fuseau centre.
Oui, on a appris lundi soir qu'un attentat a frappé la ville nigérienne, mais la région de Diffa. C'est la preuve que la force conjointe du G5 Sahel pourrait éventuellement jouer un rôle, non, si elle était opérationnelle.
Je profite de l'occasion que vous me donnez là pour présenter mes condoléances au peuple nigérien, au peuple de Diffa, et pour dire que Boko Haram est certes affaibli, mais il a toujours conservé quelques capacités de nuisance. Ce n'est pas, pour répondre à votre question, ce n'est pas le territoire du G5 Sahel. Cette partie, c'est la FMM qui s'en occupe. La FMM, c'est la force mixte multinationale qui regroupe le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Bénin, le Tchad. C'est dans cette partie de notre région du Sahel que s'étaient déployées ces forces-là. Et depuis bientôt 4 ans que ces forces-là sont en train de se battre contre Boko Haram dans cette zone.
Oui, Boko Haram a été donc complètement affaibli, mais vous reconnaissez quand même que la nébuleuse continue de représenter une menace réelle pour la région.
Oui, vous savez, monsieur, même les pays puissants se sont investis, par exemple, en Syrie pour liquider le Daesh. Ils se sont investis en Irak pour liquider ces groupes terroristes. Ils ont mis des années et ça continue toujours. À plus forte raison, des pays comme le Niger, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, le Bénin. Donc, ça prendra le temps que ça doit prendre, mais nous sommes certains que nos forces armées viendront à bout de ce groupuscule. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, ce n'est pas une guerre dans laquelle on engage les forces et on défait l'ennemi. Ce n'est pas ce genre de guerre. C'est une guerre non conventionnelle, c'est une guerre asymétrique où ce sont des individus, ce sont des groupuscules, ce sont des gens fondus dans la foule. Ce sont des gens qui sont prêts à s'exposer qu'il faut combattre, qu'il faut identifier, dénicher et extraire de la foule.
Monsieur le ministre, une vingtaine de figures de la société civile nigérienne croupissent toujours en prison. Or, le président Issoufou a été reçu en grande pompe à Paris lundi soir. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de vanter le mérite du président nigérien sur le plan international, alors que sur le plan interne, des voix discordantes sont en prison?
Mais il y aura toujours des voix discordantes. Et qu'elles soient en prison, c'est regrettable. Mais, vous savez, un État qui n'a pas de prison est un État mort. Un État qui n'a pas de loi, qui n'a pas de règles, est un État mort. Ou un État qui a des règles et qui ne les applique pas est un État mort. C'est cela que les Nigériens doivent tirer comme leçon dans leur comportement. Il faut des règles. Et les règles s'appliquent. Lorsqu'elles ne s'appliquent pas, elles ne valent pas la peine. Lorsqu'une manifestation est interdite, le citoyen doit recourir aux moyens légaux pour se faire justice. Lorsqu'il brave l'État, il en paye le prix et il n'a pas le droit de se plaindre. Moi, je demande à ceux qui ont bravé la loi et qui en payent le prix de faire amende honorable. C'est plus responsable de leur part que de continuer de se plaindre ici en Europe ou ailleurs, que d'ameuter des organisations internationales pour venir à leur secours. C'est qui est même paradoxal, parce que quand on écoute leur discours dans le pays, on se tombe qu'ils se rabattent sur des organisations non démocratiques, sur des organisations fascistes quelquefois, pour demander à ce que le Niger soit condamné.
Oui, justement, Monsieur le ministre, dans une tribune publiée en début de semaine dans le quotidien français Libération, tribune intitulée « Recul démocratique au Niger, la France fermera-t-elle les yeux ?» Une trentaine d'ONG françaises, justement, s'indignent face au silence complice de la France, face donc aux multiples violations des droits de l'homme ou bien des droits constitutionnels au Niger.
Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de prisonniers?
Mais pas des prisonniers politiques ou d'opinion.
Manifestation, vous pensez qu'il n'y en a pas? Moi, je vous dis qu'il y en a.
Vous pouvez citer des exemples?
On arrête les gens en
France. Vous pouvez nous citer des exemples, monsieur le ministre?
Ils purgent leur peine. En France aussi, ça se fait.
Vous pouvez nous citer des exemples?
Et de toute façon, monsieur, ce n'est pas la France qui va dicter au gouvernement du Niger ce qu'il doit faire. Ce que nous faisons, nous le faisons conformément à nos lois. Nous faisons ce que nous faisons conformément à nos lois. Cette loi est de 2004. Nous ne l'avons pas faite. Nous l'avons trouvée. Nous l'appliquons. Si demain les Nigériens disent que cette loi n'est pas bonne...
Le problème est que, monsieur le ministre, le Niger est quand même cité en exemple parmi les pays où règne la liberté, où la démocratie est une réalité. Le fait que des figures de la société civile soient en prison juste pour avoir usé de leurs droits constitutionnels, est-ce que ça ne fait pas que ternir l'image de votre pays?
Vous savez, l'image de notre pays prendra un coup aux yeux de ceux qui n'auraient pas cherché à comprendre ce qui s'est passé. Ceux qui auront cherché ce qui s'est passé, ils comprendront qu'il y a des groupes de gens qui ne sont pas des ignorants, qui ont demandé une autorisation qui leur a été refusée et qui ont dit qu'ils défient l'État, ils défient le gouvernement. Ils comprendront qu'un gouvernement responsable, un État responsable ne se laisse pas défier, fut-il par des éléments de la société civile. Ensuite, sur le plan de la démocratie, nous n'avons pas de leçons à recevoir de certains groupes. Vous savez, moi je suis un acteur politique depuis avant la conférence nationale. Je connais tous ceux qui sont en prison. Actuellement, je les connais. Je sais comment ils ont travaillé avec des forces antidémocratiques que nous avons combattues, nous, en tant que démocrates. Je sais comment nous leur avons régulièrement fait face dans les actions des sacs de la démocratie depuis que le processus a été installé. Ce n'est pas à eux de nous dire ce que la démocratie. On la connaît et on la connaît mieux qu'eux et on l'aime nous. Parce qu'on la défend, on la restaure chaque fois qu'elle a été mise en cause contre eux qui suivaient le régime antidémocratique. Ils sont mûs par autre chose.
Oui, monsieur le ministre.
Cette chose, nous la connaissons.
Oui, monsieur le ministre, est-ce que le...
Mais nous voulons ce débat sur le terrain politique. Nous voulons ce débat sur le terrain politique. Nous voulons ce débat aux urnes. Nous voulons ce débat-là dans un débat démocratique, ouvert, transparent, honnête et sincère.
Justement, est-ce que le président Issoufou va respecter son serment de ne pas faire modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat en 2021?
Je vous dis, le président Issoufou, c'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole. Le président Issou fera deux mandats, il a dit, et ça n'ira en 2021. Rien, personne ne l'empêchera de partir en 2021. C'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole.
Mmh. Et c'est Mohamed Bazoum qui sera le candidat du PNDS.
Ça n'en déplaise à ceux qui ne voudront pas voir le président Issoufou inaugurer cette ère historique pour l'Afrique, cette ère historique pour les pays en transition démocratique comme les nôtres, passer de témoin le plus démocratiquement possible.
Et c'est Mohamed Bazoum qui sera...
Qui va lui succéder, ce serait celui-là que le peuple nigérien aura élu.
Mmh. Et Mohamed Bazoum sera le candidat du PNDS, Traya?
Je dis, c'est notre parti qui décidera de qui sera notre candidat et nous avons l'habitude de le faire en toute transparence.
Peut-être vous-même, non, Kalla Moutari?
Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question.